Nouveau jingle pour nouvelle interview. Merci Mélissa. Donc on passe maintenant à la formation et au métier d'assistante service social, c'est-à-dire ASS, puisque le grand public appelle ce métier-là assistante sociale. Mais la vraie dénomination, mesdames et messieurs, c'est assistante de service social. Pour nous parler de ce beau métier que j'ai exercé moi-même et pour lequel je suis formatrice ici à la Croix-Rouge, j'ai invité Karen, étudiante en troisième année, qui va se présenter tout à l'heure et qui va répondre à nos questions. Et puis Mélène, qui est coordinatrice pédagogique sur le pôle social, pour venir nous parler de ce métier et de cette formation. Merci déjà de vous prêter au jeu de la radio. Alors on va commencer par toi, Karen. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Oui, bonjour. Donc moi, je suis Karen, je suis étudiante en troisième année et je suis rentrée dans la formation en septembre 2020. J'ai comme parcours, j'étais assistante médico-administrative avant.
D'accord. C'est-à-dire une secrétaire médicale ?
Secrétaire médicale en milieu hospitalier, donc okay. Fonctionnaire. J'ai la chance de bénéficier d'un financement total de ma formation pour ces trois années qui permettent d'avoir le grade de licence aussi la fin, en plus du diplôme d'État. C'est vraiment une chance que je savoure tous les jours quand je vais en cours ou quand je vais en stage. Et donc voilà, j'avais vraiment besoin de trouver autre chose quand j'exerçais mon métier. Je cherchais le contact avec l'humain, comprendre l'humain, pourquoi l'humain avait besoin de soins aussi, et ce qui pouvait se passer avant, dans les familles, au sein des familles, et comment faire en sorte que l'accès aux soins soit simplifié, mais aussi l'accès à tous les autres droits pour que les gens se sentent bien dans leur corps, dans leur tête.
Mmh. Ok, donc ça c'est ce qui t'a amené à choisir cette formation. Et pourquoi spécifiquement la filière assistante de service social et pas la filière infirmière diplôme d'État? Tu aurais pu aussi participer au bien-être du corps et de l'esprit.
C'est vrai. j'ai fait un bilan de compétences en fait pour savoir ce qui pouvait le plus coller avec ma personnalité, mais aussi est-ce que j'étais capable d'administrer des soins techniques. Le technique, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et moi, j'avais plutôt envie de travailler sur la relation humaine. Ouais. Et il y avait une concordance entre mes compétences, mon savoir-faire, mon savoir-être et le métier d'assistante de service social.
D'accord. Ok, et donc tu es rentrée à la Croix-Rouge, tu es actuellement en troisième année maintenant. Est-ce que tu peux m'éclairer sur ce que fait exactement une assistante sociale, une assistante de service social?
Ah, c'est très vaste.
Oui, c'est très vaste, et je sais que la question est...
Alors j'espère que je ne vais rien oublier surtout.
Non, mais si tu vas oublier des choses, c'est sûr, mais comme ça.
Qu'est-ce qu'on fait? On va à la rencontre des gens, des familles. On prend le temps de les écouter, de comprendre leurs besoins. S'ils les expriment ou les expriment pas, hein, parce que c'est aussi comprendre ce qui n'est pas exprimé. Prendre le temps aussi de mener des actions collectives, parce que je trouve que ça a un autre sens dans le métier, ça apporte vraiment des choses différentes. Ça complète l'intervention sociale individuelle. Qu'est-ce qu'on fait d'autre?
Auprès de qui, quel type de personnes vous pouvez travailler?
Oui, alors on peut travailler auprès de beaucoup de gens en milieu hospitalier pour des patients, mais on peut aussi travailler au conseil départemental et là intervenir soit en permanence où les gens viennent nous rencontrer parce qu'ils ont un besoin et puis à ce moment-là on échange avec eux, soit au domicile des familles. Et là on rencontre aussi le cadre de vie. Où est-ce qu'on rencontre aussi des gens en centre d'hébergement?
Oui.
Bon, en ce moment, je suis en stage en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et j'accompagne des femmes et des enfants qui sont victimes de violences.
D'accord.
Et là, on a un accompagnement qui est très global, puisqu'on va travailler sur le logement, sur l'accès aux soins, l'accès aux droits, beaucoup d'écoute. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'oublie?
Bah c'est vrai que c'est un champ d'intervention très vaste. Hein. Mélène, toi, comment tu compléterais
Non, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, que la CAM de l'assistant de service social, c'est le problème social. Et c'est peut-être ça qui fait que ça peut être un petit peu vu comme une profession pas tout à fait attirante. Parce que voilà, ce qui attire finalement l'activité d'un assistant de service social, c'est ce qui fait problème dans la vie des gens. Et, et voilà, donc du coup, ce qui fait problème dans la vie des gens, c'est extrêmement diversifié, hein, on va dire. Donc tout ce qui peut empêcher une personne de s'insérer socialement dans sa vie de tous les jours, du jour où il met en fait pied dans cette vie terrestre et jusqu'au jour où il va finalement partir, quoi. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément évident de clarifier cette question. Mais voilà, tout ce qui peut à un moment donné faire difficulté dans une vie, et ben peut être accompagné par un assistant de service social.
Et est-ce que l'assistante sociale, elle fait que des papiers ?
Oh non !
Oh que non !
Que non ! On en fait un peu quand il y a besoin. Justement, auprès des institutions, pour donner l'accès aux droits, on a besoin de compléter des formulaires. Mais avant ça, c'est écouter les gens, comprendre ce dont ils ont besoin, ce qui peut aussi freiner dans le quotidien pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir aller se former, pour pouvoir manger, se loger. Comprendre pourquoi il y a un frein en particulier à ce niveau-là.
Mais les gens, ils vous parlent tout de suite très facilement.
Ce serait trop beau. Et puis, c'est pas aussi pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour questionner. On est là pour... je trouve pas mes mots.
On est là pour... Mélène, elle peut t'aider. Créer une relation de confiance, peut-être.
Ah oui, merci.
Ah oui.
C'est à ça que servent les formateurs, voilà, c'est mettre le doigt sur les mots qu'on ne trouve pas.
C'est ça. C'est avant tout créer de la relation avec une personne qui est à un moment donné en souffrance.
Oui. Et ce climat de confiance, il est aussi indispensable pour ça. Ça veut dire que même si on prend le temps de l'accompagnement, parce qu'on ne peut pas répondre tout de suite comme ça en un claquement de doigts, si on prend le temps de créer ce climat de confiance, le travail peut être long, mais on va tous les jours un petit peu plus arriver à ouvrir la personne vers l'extérieur, lui permettre de prendre du plaisir sur la rencontre avec les autres. Ça, c'est la réinsertion sociale. Lui permettre de prendre du plaisir pour aller exercer un métier et savoir quel métier lui conviendrait. Voilà, tout ça, ce sont des petites attentions au quotidien dans les rencontres. Je crois que ce mot « rencontre » résume l'accompagnement. Hein. Moi, quand j'accompagne quelqu'un, même en tant que stagiaire, c'est une rencontre à chaque fois différente parce qu'on a une personne différente en face de soi. Mmh.
Donc ça demande une adaptation de tout instant.
Oui.
Tu l'as dit, t'as demandé voilà, si un assistant de service social, il faisait que de l'administratif. Non, mais c'est une part importante quand même de son travail. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un assistant de service social, il est en mesure aussi d'apporter un certain nombre de connaissances sur les droits auxquels on peut avoir accès dans notre société, sur les fonctionnements en fait, des administrations, sur un certain nombre de dispositifs qui peuvent nous permettre justement de trouver... un certain nombre de solutions face aux difficultés qui sont les nôtres. Et ça, c'est quand même une partie aussi de ce métier, de pouvoir éclairer les personnes sur des parties qui peuvent paraître assez obscures aujourd'hui, vu la complexité du fonctionnement aussi administratif et institutionnel en France, quoi.
Mais non, la France n'est pas bureaucratique du tout, loin de nous cette idée... et puis, moi, j'ajouterais que c'est aussi une connaissance par rapport aux processus, qu'ils soient sociaux ou psychiques, dans lequel, même si on n'est pas psychologue, hein, mais on a de... rappelle-toi de la première année et toutes tes expériences et cours que tu as eus sur différents publics, c'est dans quel processus de socialisation telle ou telle classe sociale ou tel individu, en fonction de son environnement, peut se trouver. Donc il y a toute une logique de prévention aussi, ou d'intervention, par exemple, sur le cycle des violences conjugales, qui est théorisé, qu'un travailleur social va avoir dans son panier de connaissances pour s'adapter comme tu l'as dit tout à l'heure, et intervenir en fonction du rythme de la personne et en fonction du processus, de le stade de processus dans lequel il se trouve en état actuel des choses, puisque évidemment, il ne faut pas généraliser toutes ces théories-là et les plaquer aux individus comme ça et en faire des généralités. Mais c'est vrai que ça apporte une certaine vigilance quand on rencontre des personnes qui sont dans tel ou tel parcours. Je me permets de sort un petit peu de mon rôle, mais tant pis, puisque Mélissa ne m'écoute pas. Ensuite, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que dans ta formation, donc tu es en troisième année, c'est intéressant qu'on ait une étudiante de troisième année, comment ça s'est passé ta formation, même si c'est pas fini?
Non, c'est pas encore fini, il reste plein de choses à apprendre. Comment ça s'est passé ma formation? Une première année très théorique, où on apprend justement les bases de ce que tu viens d'expliquer. De la psychologie, de la philosophie, de la sociologie,
du droit,
comprendre le fonctionnement de la protection sociale, le fonctionnement de la famille, la notion de territoire, le diagnostic de territoire, un gros morceau en première année, mais en fait c'est une expérience, je pense, qui nous enrichit pour la suite, comprendre ce que c'est qu'un territoire, où trouver des partenaires, quelles personnes vivent sur ce territoire, quelles sont leurs ressources au sein d'un territoire et pourquoi sur certains territoires c'est plus difficile que sur d'autres de vivre, tout simplement, pourquoi il y a de la précarité, pourquoi il y a de la pauvreté, toutes ces choses là on les apprend au cours du diagnostic de territoire. On est bien accompagné pour apprendre tout ça avec des formateurs et des sociologues ou voilà, des bons professionnels, et aller sur le terrain en première année sans être en stage, mais voilà, aller à la rencontre des personnes, en fait, c'est aussi ça, se former. Moi, ça a été très enrichissant pour moi. Après, ça débouche évidemment sur un écrit et sur une épreuve qui va compter pour le diplôme d'État. Mais ça permet d'étaler aussi ces épreuves sur 3 années de formation, puisqu'en deuxième année, on a d'autres épreuves dans la communication, dans ce qu'on appelle le domaine de formation.
Et au niveau des stages, comment ça se répartit sur les 3 ans?
Alors, en première année, il y a un stage de 8 semaines.
Ouais.
On appelle un stage d'observation.
C'est ça.
Qui nous permet de confirmer, de se rendre compte si on est au bon endroit, si ça nous plaît, si c'est un métier qui nous convient. En deuxième année, il y a un stage de 8 mois.
7 mois.
7 mois, pardon. Donc, c'est 8 semaines d'école. Et après, on part sur le terrain avec quelques semaines de regroupement dans l'année pour finir sur 4 semaines à l'institut pour passer les examens de fin d'année. Mmh. Tout cela, au fur et à mesure, est validé par des semestres qui comptent pour la licence, puisqu'en troisième année, on a donc une licence. Et en dernière année, on a 8 mois de stage aussi.
Oui, aussi.
À peu près. Voilà, aussi en terrain. Et toujours avec des regroupements à l'Institut pour compléter sur ce qu'on vit en stage et les apports théoriques.
Ok, parfait. Je pense que Mélène complétera tout à l'heure avec la présentation de la formation du point de vue du formateur. Comme ça, on sera totalement complet. Je voulais juste savoir, Karen, tu vas bientôt être diplômée, on l'espère. Et on a confiance en toi d'ici la fin de la troisième année. Comment tu te vois là dans 6 mois à ton arrivée sur le marché du travail en tant qu'ASS?
Alors en fait, je ne me ferme pas de porte. Si je peux, je travaillerai dans le milieu sanitaire d'où je viens,
ouais.
Pour compléter le social et sanitaire. C'est pour moi quelque chose qui me paraît essentiel, ça va ensemble. Mais si ce n'est pas ça, j'aimerais accompagner aussi un public de femmes et d'enfants victimes de violences, puisque c'est actuellement ce que je fais et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et après, sinon, j'irai là où il y a de la place, parce que je crois qu'on cherche des travailleurs sociaux partout.
Je crois que c'est pas...
Et on voit bien de moi.
Voilà, c'est pas un métier où le chômage frappe de plein fouet. Au contraire, c'est un métier où il y a de fortes difficultés de recrutement et se posent pour différentes raisons d'attractivité. Merci Karen, n'hésite pas à venir compléter la petite interview de Mélène. Mélène, merci d'être présente cet après-midi. Est-ce que tu peux te présenter ainsi ton poste actuel et puis ton parcours avant?
Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Mélène. Comme disait tout à l'heure Agathe, je coordonne la formation d'assistante de service social et de conseillère en économie sociale et familiale à l'Institut de formation. Ça veut dire qu'en réalité, je travaille avec une équipe d'une dizaine de formatrices et de formateurs qui animent ces deux formations. Mon parcours, en fait, je suis assistante sociale de formation. J'ai obtenu mon diplôme d'État. Après un cursus réalisé en tronc commun avec des éducateurs spécialisés et des animateurs socioculturels, j'ai exercé le métier d'assistant de service social principalement en ce qu'on appelle polyvalence de secteur, comme assistante sociale volante à une certaine époque dans le Loir-et-Cher. Sur les routes de Romorantin et de Blois. Avant en fait d'ouvrir un poste d'assistant de service social en milieu hospitalier, dans un secteur parfois aussi sinistré que la Sologne profonde, c'est-à-dire à Loudun, donc dans la Vienne. Je crois que j'étais
là. La question du territoire se pose particulièrement.
Voilà, attirée par ces territoires un petit peu abandonnés. Donc j'ai pu ouvrir un poste dans un hôpital de proximité dans lequel à l'époque on avait tous les services. Mon objectif, moi, professionnel, quand je suis rentrée dans cette formation, c'était de devenir directrice de maison de retraite. À l'époque, on disait ça, maintenant on parle d'EHPAD, d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et donc du coup, j'ai repris des études pour pouvoir prendre donc une direction de structure. Donc j'ai réalisé un master économie et gestion des activités médico-sociales à Paris Dauphine. Et ensuite, j'ai pu exercer en tant que directeur de petites unités de vie, c'est-à-dire de petites structures de moins de 25 résidents, dans lesquelles la dimension humaine est encore présente, beaucoup moins que dans les établissements qu'on appelle donc les EHPAD, où cette taille humaine n'est pas forcément présente. Voilà, donc j'ai pu exercer pendant
différentes fonctions, aussi bien directement auprès du public que des fonctions plutôt d'encadrement.
C'est ça.
Et tu es arrivée à la Croix-Rouge.
Je suis arrivée à la Croix-Rouge en 2011, donc il y a un petit peu plus de 10 ans en tant que formatrice sur la formation d'assistante de service social à l'époque, avant de prendre la coordination.
Ok. Alors, est-ce que tu peux nous comment tu présentes, toi, en tant que cordeau, la formation d'ASS aux visiteurs là, qui viennent à la Croix-Rouge aujourd'hui?
Qu'est-ce que je dis? Je dis déjà que la formation d'assistant de service social, elle dure sur 3 ans. C'est la base, quoi, déjà. Ce qui est intéressant de savoir aujourd'hui, parce qu'on peut entendre un petit peu l'inverse, qu'il y a plus de temps en fait de stage que de temps de théorie. Sur les 3 ans, plus de 1800 heures de stage, on l'a dit tout à l'heure, découpé sur trois années, que cette formation, c'est une formation relativement généraliste, c'est-à-dire qu'elle aborde toutes sortes d'aspects du champ du travail social qui peut permettre de devenir un assistant de service social. Et pourquoi généraliste? Parce que, on l'a compris tout à l'heure, on peut exercer ce métier dans des structures tellement différentes, auprès de publics tellement différents, que du coup, en fait, cette formation, on la poursuit aussi après le diplôme d'État sur l'institution, sur les premières institutions qui nous forgent en tant que jeunes professionnels en fonction des choix qui sont les nôtres. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a le choix de choisir finalement le secteur dans lequel on veut devenir professionnel. Quoi.
Est-ce qu'on peut expliquer aussi que Karen, elle en a un petit peu parlé tout à l'heure avec les actions collectives, ce qui n'était pas forcément historiquement présent dans la culture de métier.
Ouais.
On était vraiment dans de la relation d'aide individuelle.
Ouais.
Et aujourd'hui, c'est inscrit dans la qualification du diplôme d'État, c'est l'action collective auprès des groupes, des communautés.
C'est ça. Alors, je pense que voilà, ça c'est une réforme du diplôme d'État d'assistante de service social qui date de 2004, avec des premiers professionnels qui sont sortis en 2008, donc ça commence quand même maintenant à faire. Néanmoins, dans les représentations, c'est encore très très ancré qu'un assistant de service social, il travaille principalement auprès d'une personne ou de sa famille, quoi. Et bien non, aujourd'hui, un étudiant assistant de service social, il va être formé autant sur cette dimension individuelle que sur cette dimension d'accompagnement social collectif. Ça veut dire à la fois, en effet, être formé à pouvoir conduire des temps d'animation auprès de groupes, auprès de populations sur un territoire, mais c'est aussi participer à des diagnostics de territoire, donc, comme tu as parlé tout à l'heure, avec d'autres institutions, mieux comprendre finalement les réalités sociales d'une population sur un territoire et participer à l'évolution finalement des services proposés à destination des publics. Quoi.
Ok, parfait, parfait. C'est clair, concis, efficace. C'est du Mélène François. Nous aussi, on a notre cérémonie de remise de diplôme avec la toge et on a des discours. On a le discours de Mélène, on a le discours de Yannick Châtel, qui est notre directeur du pôle social. Tu fais ton discours, mais au fond de toi, à ce moment-là, ce jour-là, qu'est-ce que tu espères voir dans ces jeunes diplômés qui quittent l'Institut pour aller vers le marché du travail ?
Ce que j'espère voir, c'est encore en fait la même étincelle qu'ils ont quand ils arrivent, quoi. Mmh. Hein, c'est-à-dire que voilà, quand ils arrivent, ils ont vraiment la volonté de pouvoir soutenir, aider des personnes. Et puis en fait, tout au cours de la formation, eh ben ils sont ébranlés parce qu'ils comprennent d'eux-mêmes finalement, et puis parce qu'ils comprennent finalement des difficultés des populations et des possibilités en fait pour les accompagner. Et donc du coup, traversent des moments de doute, des moments où finalement ils ont l'impression qu'on peut leur proposer un tableau un peu plus beau que celui qu'ils voient en stage. Donc voilà, ce que j'espère trouver encore, c'est finalement cette étincelle-là et voir souvent qu'elle est amplifiée parce que les étudiants, ils renforcent finalement leur envie de pouvoir investir ce champ-là la plupart du temps pour faire en sorte que sur le terrain, eh bien, ce qui prime, c'est encore cette idée de la rencontre, cette possibilité que finalement on garde l'idée que tout peut se jouer dans une rencontre en fait. Mmh,
mmh. Ouais, je crois qu'on est tous assez d'accord avec ça, donc... voilà, on espère vous transmettre tout ça. Mélissa, ta question ?
Alors, il a été question dans ces échanges de l'accompagnement qui peut être nécessaire pour des personnes pour qu'elles retrouvent du plaisir à être avec les autres, à travailler, à initier des actions, du loisir. Et aussi, voilà, il était question de femmes victimes de violences. Alors, est-ce que vous voudriez nous donner quelques raisons, nous expliquer quelques facteurs qui font que pour certaines personnes, il ne suffit pas de traverser la rue pour retrouver du travail ?
Oui, c'est vrai. Parce qu'on a tous un bagage qui peut parfois être lourd à porter, et que donc du coup il y a des moments où on n'arrive plus à le porter tout seul, et le rôle des travailleurs sociaux et notamment de l'assistante sociale, c'est ça, c'est parfois d'être aux côtés de la personne qui n'arrive plus à porter ce bagage trop lourd de son parcours de vie, et nous on va venir soutenir le temps qu'il faut ce bagage légèrement ou plus fort par moment, en fonction de quand la personne sera prête, aura suffisamment de force pour pouvoir le porter seule, et ben on pourra enlever notre soutien, toujours rester à disposition et lui permettre d'avancer seule. Et je pense que c'est ça aussi le but de notre métier, c'est de pouvoir donner suffisamment d'élan, d'outils au quotidien aux gens pour qu'ils puissent avancer seuls en toute autonomie, c'est ce qu'on appelle l'autonomisation, et pour que eux ils prennent du plaisir à aller au travail tous les jours, à aller voir les gens de leur famille, que au quotidien ils aient du positif. Et c'est, je pense, en tout cas moi c'est comme ça que je vois le métier, c'est les accompagner, soutenir les bagages un peu trop lourds à porter jusqu'au jour où il n'y a plus besoin de ce soutien.
C'est aussi participer à démontrer que c'est pas toujours possible, vraiment, et pouvoir permettre aussi à ce que cette société continue à réserver une place pour tout le monde, y compris quand on ne peut pas finalement entrer dans la norme et retourner ou aller vers le travail. Voilà, ça c'est... c'est pas toujours possible et pourtant c'est vraiment important de continuer à accueillir, à valoriser la place de tout le monde dans notre société. Quoi. Et ça, je pense que la stentérie sociale, il a aussi à participer, à porter ce discours-là à un moment donné où en effet, on attend un petit peu plus de chiffres sur le nombre d'emplois ouverts, etc. et l'évolution des personnes. Bon. Il y a des moments, ben, ce sera jamais possible. Et ce sera tout aussi important de continuer à soutenir et à accompagner les personnes.
Et ça fait partie de ce qu'on appelle la question sociale, qui est prise en charge par l'État français depuis déjà de nombreux siècles, au cas où certains l'oublieraient. Ça fait partie de notre ADN, cette protection sociale, et aussi de l'effort de solidarité nationale. C'est aussi ce qui fait que voilà, on est un pays... tel qu'il est. Et on peut, je pense, en être fier, mais accompagner ceux qui ont eu moins de chance ou qui sont plus fragiles. Je remercie Mélène et Karen avec grand plaisir pour cette participation.
Merci beaucoup.
Et puis je vais vous laisser réaccueillir les autres visiteurs parce que je vois qu'il y a tout le monde, toujours du monde qui arrive et c'est vraiment chouette. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.